Ben, écoute, par là qu'on est là, là.
Ah ben! Ben oui, je viens de recevoir le courriel.
Moi aussi, Laurent Lassalle est avec nous, mesdames et messieurs, et avec votre esprit.
Yes, amen.
Amen. Comment tu vas, mon Larry Lassalle?
Non, ça va bien, ça va mieux. J'avais le rhume la semaine dernière, je n'ai pas pu me présenter.
Ouais, j'ai vu ça, le peuple te réclamait.
Ben oui, j'ai écouté un peu de dubstep, puis ça va beaucoup mieux.
On va faire le ménage des donateurs. Merci beaucoup à ceux qui ont donné hier pendant notre match de hockey de NHL. C'était le temps de revoir ce match en levant, en posant notre ami Jonathan Laberge à Jean Barre. Belle victoire de Jean Barre, mais beau combat qui a été justement offert par ces deux pugilistes du web, mesdames, messieurs.
Donc, par conséquent, étant donné que Jonathan était là hier, il n'est pas là ce soir.
Exactement. Exactement. Tu sais, c'est on même les boys.
Mais écoute.
Correct, on dit « vie », man.
Comprends ça? Cette histoire-là. Ouais. Moi, je suis pas là la semaine prochaine.
Ben non, ben tu te promènes, tu te promènes, tu es tellement jet-set, tu as des amis
ben,
qui sont tellement super branchés.
Ben oui.
Qui ont des belles voitures, en plus, tes amis.
Ben oui.
Puis on a salué, d'ailleurs, ton ami. Bonjour, ami.
En ce moment, il est à San Francisco.
Ah, ben, il écoute pas, non?
Ben, hey, il peut pas nous écouter.
Ce soir, on va avoir un magnifique téléphone dernier né de nos amis de Google.
Yes. Ben oui, puis l'embargo levait ce matin, ça tombe-tu bien?
On est de même,
un beau mardi.
Ouais, ouais, ouais. Un beau salut aux gens qui se joignent à nous via Facebook. Vous pouvez le faire comme ça le mardi, mercredi et jeudi, parfois le lundi également. On se promène.
Là, est-ce que ça veut dire que tu vas en émission demain et jeudi aussi?
Demain, jeudi aussi, oui. Quatre
donc, quatre fois cette semaine. Donc, tu te rattrapes pour le congé que tu as pris cet été. Donc.
Je suis comme ça, moi.
Non.
Je donne. Quand j'en ai plus, je donne encore.
Fou.
Comme ça. Salutations à Cinéphile qui est avec nous également. Cinéphile, pardon. Il y a Gabi 131 qui est là, Bambino 777. Salutations, monsieur. Comment vas-tu? Brad est avec nous également. Groovy B-Man, Bencho Slide, bonsoir. Mountain Biker, allô, allô. Max Eliseux, salut. Et Max, tiens, ce que la planète au complet sache qu'il a reçu son nouveau PC.
Oh!
Je sens qu'on va en entendre parler.
J'espère pour lui que c'est une bombe.
Ah oui, c'est une bombe. Salut, Cerber.
1900, je ne sais plus. Là.
Ah, il a fait un bon choix.
1070, 1080, 1090, 1100.
Ah, on a pas mal. Ouais. Salutations, Loto Dan, comment vas-tu? Laurent Lassalle est avec nous également ce soir sur Facebook et sur Twitch également. Ça vous tente de discuter avec lui, je n'en ai pas.
Bon, ok, j'ai compris, je vais aller checker.
Wolfstorm aussi, salut, Maurice Time of War. Joël Gabay parmi nous également. Groovy B-Man, merci d'être là encore une fois ce soir, c'est très cool. Devenez membre de Twitch, twitch.tv/Radio-Talbot. Ou encore, devenez mon patron sur Patreon, cherchez Radio-Talbot. Et vous pouvez donner un coup de main à ce podcast. Merci, M. Brad Mardigan, d'être là également. Brad, est-ce que vous avez acheté BF1? En précommande? Comme moi. Il y aura sûrement un petit playtest un peu plus tard. Au moins que Laurent veuille rester avec nous, mais normalement, après une heure assis dans cette chaise, il a l'appel du retour à la maison.
J'ai du montage à faire, hein? Pour faire changement.
Mm-hmm. J'ai pas essayé en ligne encore. J'ai joué à la campagne. Dans la campagne, à la campagne. Parce que ça se passe en campagne, parfois. Et très joli, le jeu. On a eu beaucoup de plaisir. Oh, M. Brad Mardigan a le jeu, donc j'ai comme l'impression qu'on va se faire une petite partie tantôt, M. Brady Boy.
Brady Boy.
Brady Boy. Mountain Biker est avec nous. Salut. Oui, j'ai vu une vidéo sur Facebook de Galaxy Note 5. On a fait une nouvelle avec ça, d'ailleurs, il y a quelques jours. OK, Alexandre Vallière qui veut savoir où se procurer la NES classique dès sa sortie. Je pense que vous pouvez la commander.
Non, il n'y a pas de précommande.
Oh, bonne chance.
There's no pre-commander.
Yeah.
Donc, on va pouvoir probablement se garrocher chez EB Games, GameStop, Best Buy et compagnie.
Dans tous les bons magasins, 75$ pour jouer avec des ROM.
Ben, c'est des jeux déjà stockés, mais je veux dire, c'est quand même une belle pièce de collection. Et pour quelqu'un qui n'a pas de Wii, qui n'a pas de Wii U, qui ne veut pas se casser la tête et qui veut jouer à des classiques,
bang.
Ça peut être bien simple.
Facile de même. Pour connaître l'origine des jeux, je parle aux plus jeunes gamers qui nous écoutent. Là,
ben
pour
oui.
connaître d'où c'est parti. C'est,
ceux qui ne connaissent rien, là. Maudite affaire.
Donc, allez faire un tour. Michiroussan 27, salutations. Wolfstorm, j'ai dit tantôt. Burke, Amazon, nous dit-il. On peut le procurer sur Amazon aussi. Oui, c'est un fait.
Ah, ben oui.
À part de ça.
Mais est-ce qu'il est déjà en précommande Amazon Canada? Ça se peut, parce que des fois, il ouvre les précommandes assez tôt.
Regarde ça, puis on va en reparler dans l'émission qui commence dans un instant. Stand back, j'ai le monde.
Enfin, vous avez trouvé la maison de vos rêves. Maintenant, il vous faut négocier l'hypothèque.
Tout ouvert ou fermé?
Quel prêteur choisir?
Où avez-vous mis le numéro du notaire, déjà?
Ah oui, l'assurance hypothécaire, en plus. Concentrez toutes ces étapes en un seul endroit. Votreconseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tout sous un même toit. Votreconseiller.net. Une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
Hey Laurent, tu vas être content d'apprendre que les Gilmore Girls arrivent le 25 novembre prochain. C'est loin, je sais que c'est loin.
Suite.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services. Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. Radiotalbot@gmail.com. Radio Talbot est une présentation des Brasseurs illimités et de la bière Simple Malte. Mugodio, les spécialistes pour les DJ, le son et la musique depuis 1998.
Mugodio.com.
EB Games, le plus grand détaillant de jeux au Canada. Et par CIPC, votre référence pour votre solution informatique.
Comment allez-vous? Ici Denis Talbot. Bienvenue à cette autre édition de Radio Talbot ce soir. Et pour m'accompagner dans ma tâche, nul autre que cet homme, vous l'aimez, vous le chérissez. Il est en forme cette semaine. Il n'était pas là la semaine passée. Laurent Lassalle, mesdames et messieurs.
Hello! Ça va mieux, mais c'est pas top shape, mais on va essayer. On va essayer de faire un show.
Non, tu vas être capable. Tu as la force de 20 hommes. Un homme normal serait couché avec une horde de médecins à ses cheveux.
OK, et ouais.
Laurent Lassalle, non. Il est ici.
Plus fort que ça.
Plus fort que ça.
Un simple rhume, moi. Après une semaine, je commence à être popé.
Il était rough. Il est de retour parmi nous, mesdames et messieurs. Incroyablement, avec un paquet de nouvelles encore une fois ce soir. Je tiens à vous rappeler que le musée Grévin vous attend dans le Bachelor de notre ami Mario Party. T'as envoyé là pour les ratings.
Nice.
Voilà.
Quand toi non plus, t'as pas beaucoup de poils.
Moi, je suis comme ça. Ça pousse pas sur du rock.
Moi non plus. On m'a déjà demandé si je m'épilais après avoir fait des choses. Et j'ai expliqué à la fille que non, j'ai juste comme pas de poils. Ouais, mais t'as une barbe.
Oui, ça
ben
compare.
Ben oui, mais ça voilà. c'est pas connecté. Il n'y a pas une suite.
Vous êtes à Radio Pilosité ce soir, mesdames et messieurs. Donc, venez faire un tour au Baiser Grévin qui, pour l'Halloween, va faire des trucs assez spéciaux. Vous allez vous promener dans le noir. À travers ce musée qui prendra bien sûr la couleur de l'Halloween, il y aura des monstres de trucs.
Mais là, si on accroche les poupées de cire, là, qu'est-ce qui se passe? J'y accroche le doigt, puis ça tombe à terre. Je devrais payer 500$ pour une chirurgie de doigt.
500$?
Ben, je sais pas.
Hey, il paraît que c'est bien cher, ces poupées-là. Ouais. Ces poupées-là, oui, ces statues-là.
Il y en a qui sont vachement réussis. Et oui, j'ai dit vachement. Et il y en a d'autres qui sont pas vachement réussis.
Bon, moins bon un peu.
Ouais.
Moins bon un peu. Mais ça, c'est difficile de faire ça, j'imagine, quand tu es un artiste. Ton rendu, comme toi avec une barbe, moi, je te sens.
Ah, on vit ça. Faudrait qu'il fasse une version de moi, pas de barbe. Puis là, le monde serait encore plus déçu. Hein? Donc, mon truc, c'est de ne pas être vedette. Comme ça, ils n'ont pas besoin de me faire.
Exactement. Donc, allez faire un tour, non seulement à l'Halloween, mais vous avez jusqu'au 7 janvier, au 8 janvier, en fait, pour aller voir l'exposition Super Mario et ses amis. Allez jouer, allez vous amuser. Il y a des trucs qui s'en viennent à ce musée avec Nintendo. J'en dis pas plus pour l'instant.
Oh!
Mais ça va être cool.
Je veux dire, pour quelqu'un qui aime l'histoire de Nintendo, la murale qui explique d'où c'est parti, etc., là, du début de la... De la De la fondation de l'entreprise en 1800 quelque chose, je pense que c'était 1895, ouais. Quelque chose comme ça, jusqu'à aujourd'hui. C'est très intéressant de voir ça imprimé et validé, estampillé Nintendo Canada.
C'est une première d'ailleurs, c'est la première fois que Nintendo, au Canada en tout cas, assiste, présente ce genre
présente, de truc. Présente, oui, tout à fait.
Et vous invite à y assister et toucher. Dans un musée d'habitude, on ne touche pas, mais là, on peut y aller.
Ben c'est ça, c'est vraiment plus, il y a des ouais. Wii U, des 3DS, ouais. C'est les consoles un peu plus modernes. Oui, on a une histoire sur le mur, mais j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte okay. Que ça fasse un peu plus musée peut-être, en tout cas.
Ok. Alors, il y a Vince Sassy qui est avec nous ce soir, qui va aller prendre une marche. C'est un message à mes gentils modérateurs qui sont vêtus de piton, vous allez voir. Donc, bye-bye Vince Sassy. Hope to see you again. OK, mais tu sais, des propos racistes sur le site.
Vince. Qu'est-ce qu'il dit, le Vince?
Ah, il n'est pas gentil.
Je n'ai pas vu.
Ah, c'est pas grave, il parlait des francophones. Pis tout ça. Hey, il y a un beau jeu qui s'en vient, dont on va voir la bande-annonce ce jeudi. C'est le fameux jeu Red Dead Redemption 2. Ça fait longtemps qu'on en parle.
Ben c'est ça, ça va-tu être Red... Là, ils disent Red Dead Redemption 2, mais moi, j'avais quasiment oublié, il y avait Red Dead Revolver, c'était le premier.
Oui.
Donc, théoriquement, c'est le troisième opus.
Mais le deuxième, c'est l'appellation
mais
de Red Dead.
Le deuxième de Redemption. Parce que le Red Dead, tu l'avais avant, t'avais Red c'est Dead ça. Revolver. En tout cas, c'est bien mêlant.
Mais le deuxième, sous l'appellation Red Dead Redemption, devrait paraître très prochainement. Il y avait des rumeurs d'annulation. Tu te souviens-toi,
Parce qu'il y avait eu des rumeurs pour la suite. Puis là, finalement, ça ne s'est pas concrétisé. C'était bidon. Puis là, les gens se sont dit, ben là, peut-être qu'on rêve tout ça. Mais non, Rockstar, en fin de semaine, ils ont changé leur logo pour un logo sur fond rouge. Fait que tout le monde a capoté, a imaginé que c'est Red Dead. Après ça, le lendemain, on avait le coucher de soleil approximativement comme celui-ci, sauf que c'était seulement des silhouettes et un peu plus petites. Là, fait que là, on dit « Ah, man, c'est des cowboys, c'est sûr que c'est Red Dead! » Et ce matin, bang, on nous annonce que la bande-annonce aura lieu, sera diffusée en fait jeudi. C'est après-demain.
Exactement, on va la diffuser ici, bien sûr, comme dans tous les bons podcasts qui se respectent.
Qui se respectent, ils diffusent la même maudite bande-annonce.
Oui, parce qu'on n'a rien d'autre à diffuser, tu vois, on attend avec impatience le truc. Mais souvenez-vous de ce jeu qui était pas mal intéressant, sauf si on était un newbie et qu'on commençait la partie, on arrivait donc à dos d'âne, surtout en multijoueur. Et il y avait une gang de gars qui nous attendaient, qui nous flinguaient et ils trouvaient ça très, très drôle. Mais l'aventure solo était, ma foi, très, très bien faite avec des contrées, des steppes américaines à découvrir, comme diraient les Français. Et non, c'était vraiment cool. L'action était le fun. C'est indigne d'un western spaghetti à la Sergio Leone avec la musique et tout ce qu'il faut.
Ouais.
Avais-tu joué pas mal à ça?
Moi, je l'avais juste essayé, mais je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas eu. Je ne l'ai pas complété.
Ah, mais celui-là, tu vas le faire.
J'ai pas eu l'occasion, mais là, je vais me rattraper, là. D'ailleurs, parce que c'est ça, si j'avais eu une Xbox One pour la version rétro-compatible qui a été publiée récemment, j'aurais peut-être pu essayer ça, mais là, je peux pas. Fait que...
Le message est lancé à qui de droit, qui nous écoute sûrement pas parce qu'ils sont à Toronto.
Toronto. Moi, ce que je trouve dommage, également, on l'a annoncé pour la Xbox One et la PlayStation 4, mais il n'y a pas de version PC.
Pour le moment.
Microsoft pousse beaucoup les développeurs pour qu'ils exploitent l'espèce de plateforme universelle Windows. Ouais. Donc, théoriquement... Ça devrait peut-être être compatible PC. Peut-être qu'ils font juste pas en parler tout de suite. C'est à surveiller.
J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir. Mais c'est sûr qu'il va y avoir une version PC éventuellement. Ouais. Ils le font toujours quelques mois plus tard. Mais Red Dead, excellent jeu avec lequel on va s'amuser follement. J'ai comme l'impression qu'on va être fun. D'autre part, chez Apple, cher ami, paraît-il que les projets de voitures seraient mis sur la glace. C'est quoi cette histoire? Éclaire-nous.
C'est le Bloomberg, magazine Bloomberg, qui a annoncé en début de semaine que Apple aurait considérablement réduit ses ambitions d'intégrer le marché automobile. On parle, ça c'est l'image que Moto Trends avait utilisée. Ils étaient convaincus que l'Apple Car ressemblerait à ça. Puis là, évidemment, le premier réflexe que tout le monde a eu en voyant l'automobile dans cette nouvelle-là, ben là, je comprends qu'ils ont abandonné si ça a l'air de ça. Mais non, c'est juste une façon d'imaginer. Fait que ça aurait pas eu l'air de ça. Mais là, Apple est en train de se dire on n'est pas trop convaincu si on est apte à construire, à fabriquer notre propre voiture. Essentiellement, alors que Apple n'a aucun problème à exercer une certaine pression. auprès des fournisseurs pour obtenir un certain nombre de pièces informatiques pour produire des appareils mobiles ou des ordinateurs. Ben, quand vient le moment d'avoir les mêmes deals, les mêmes partenariats en automobile, ben, c'est sûr qu'il y a zéro expérience, donc c'est très difficile.
Ouais, mais donc, ils ont acheté un paquet de firmes spécialisées dans
ils ont un paquet d'ingénieurs, mais ouais. Là, il y aurait eu des mises à pied et des personnes qui auraient été assignées à d'autres postes.
Okay.
L'équipe a été grandement réduite. Et ce qu'on appelle le projet Titan, en fait, il reste juste une partie des ingénieurs et ceux-ci doivent démontrer la faisabilité du projet. Donc, démontrer à Apple que c'est possible de fabriquer elle-même son véhicule automobile ou du moins d'exploiter son système de pilotage automatique pour pouvoir l'utiliser en partenariat avec d'autres fabricants automobiles. Donc, Apple est un peu placé devant cette position-là. Il a déposé un échéancier. Ils ont dit, à fin 2017, on veut que la question soit réglée. Donc, vous devez travailler sur votre projet puis nous démontrer à quel point c'est faisable. Et selon justement les résultats du travail de l'équipe, Apple va prendre la décision. On part en automobile ou on laisse faire.
Penses-tu qu'ils vont laisser choir le projet, toi?
Ben moi, je pense qu'au pire, ils vont exploiter toute leur recherche qu'ils ont faite en système d'autopilote. Ils vont l'utiliser peut-être avec une autre entreprise qui est moins avancée de ce côté-là. Je sais que Ford travaille énormément là-dessus, mais est-ce que c'est le cas de GM? Est-ce que c'est le cas de Chrysler? En Europe, j'ignore où ce qui est rendu Audi, Passat et compagnie, mais il y a peut-être moyen de négocier quelque chose. On verra. Mais l'auto Apple, moi, ça m'a toujours titillé.
Ouais, moi aussi, il me semble que ça serait le fun.
C'est parce que le logo Apple sur le devant d'un char, généralement, le crest, le logo là, du char, c'est toujours symétrique puis c'est aérodynamique.
Ouais.
Là, t'as une pomme, c'est weird.
Ah,
moi, j'ai toujours trouvé ça weird.
C'est le graphiste qui parle aussi.
Ouais. Mais même si les capes de roue, là, même si on regarde la photo LED de tantôt, là, il me semble que c'est bizarre, les pommes qui...
Ouais, mais ça, c'est un concept, là.
Ben ouais, mais quand
même. Ah, ben,
faudrait quasiment que Apple...
Et puis là, est partie, la photo.
Probablement qu'ils vont pas mettre leur logo, ils vont le mettre juste en arrière, puis ils vont écrire Apple Car en avant, je sais pas.
Je sais pas, mais puis là...
Ça risque d'être bizarre.
Bon, est revenu la photo. On va la regarder encore. Comme ça, tu trouves que c'est laid, ça, la pomme.
Mais c'est parce que la pomme, c'est pas symétrique en avant d'un char comme ça. Ça fait vraiment bizarre. Sur un produit informatique, c'est une chose. Mais sur un devant de char...
Mais imagine-toi qu'elle est dans un cercle. Donc, on vient de trucider le logo, là, c'est moins bon.
Je sais pas,
attendons.
Là.
Mais comme je te dis, c'est un concept, ça. Là. C'est quelqu'un qui a un
plan. J'ai toujours... Tous les concepts qu'on a vus d'Apple Car, ça a toujours été mon bug. C'était, le logo, ça ne fit pas. Bon. Ça ne fit pas.
Alors, s'il y a des gens d'Apple qui nous écoutent, ça vous tente d'avoir un beau logo. Laurent Lassalle se propose
pour... Je pense qu'ils ne mettront pas le logo. Moi,
simplement.
S'ils décident, hein, ils vont développer une autre marque pour... Je ne sais pas. Je trouve ça vraiment weird.
C'est bizarre.
Mais bon.
On va suivre ça de près. Je sais que la voiture électrique, moi, ça me tente de plus en plus. Je suis en hybride. Vous savez que j'ai une Prius de course. Et il me semble que j'aimerais ça être complètement autonome. Électricité, that's it. Mais
est-ce que Tesla écoute le show?
Tesla.
Hey, Tesla.
Puis même, j'aurais des piles ici pour la maison. Je m'en servirais. J'ai assez confiance en Tesla pour
ça. Oui? Ben oui. Fait que s'ils veulent te fournir l'électricité en plus. Ah, ben là, Tesla, si vous écoutez, on est là.
Hey. D'autre part, Batman Return to Arkham a été rematricé ou remasterisé. Ou en tout cas, il a été refait en HD.
Bon, ça, j'aime ça, refait.
Refait, c'est simple. Ah, et puis, on sortit une autre bande-annonce parce qu'on sait que le jeu va voir le jour également jeudi. Batman Arkham Asylum et Batman Arkham City dans une espèce de compilation qui va comprendre tous les contenus téléchargeables. Donc, c'est Batman Return to Arkham, retravaillé, refait. Pour les consoles PS4, Xbox One, avec, bien sûr, le fameux moteur Unreal 4, disponible ce jeudi 20 octobre, pour les intéressés. Remastered, rematricé. C'est pas ça, toi?
Non, moi, j'aime mieux remasteriser, mais parce que je m'ostinais avec toi, avec l'idée d'une matrice. Pour moi, s'il n'y a pas de pixels, puis c'est des polygones, il n'y a pas de matrice, ça marche pas.
Ben, la matrice dans le film, c'est un peu de pixels et de polygones.
Ouais, c'est vrai.
Plus de détails à 23 ans.
Loose. Here, I should thank you. Capturing Bruce Wayne is so much easier than Batman.
Alors, c'est jeudi que ça va le jour. Pour ceux qui n'ont pas joué aux versions précédentes, ça peut être intéressant. Certains disent qu'on ne voit pas la différence de texture. Il faut regarder comme il faut.
Il y en a, oui, il y en a une. Il y a eu quand même, il y a des comparatifs sur YouTube que j'ai pu voir. Là. C'est, des fois, c'est peut-être dur sur la diffusion de la bande-annonce. Tout va vite en plus. Non, prenez le temps de regarder. Il y a quand même une bonne différence, mais c'est sûr que c'est pas comparable comme du PlayStation 1 versus le PlayStation 4. Il ne faut pas s'attendre au jour et à la nuit, mais il y a quand même une bonne différence. Peut-être supérieure de ce qu'on peut remarquer quand on compare des jeux PC avec des jeux de console.
Effectivement.
Des fois, il y a une bonne différence. Là, on a quand même quelque chose d'un peu plus important, à mes yeux.
Je remercie notre ami Cerber qui a fait un don de 20$. Également, notre ami Ben Schlossly. Également, merci Ben de ce 20$. 22$. Et mort d'ennui, il est redevenu membre pour un 22e mois consécutif. Ergo Québec pour un 21e mois.
Ça va super bien.
Très cool. Merci d'être là, tout le monde. Parlons un peu de nos amis de Samsung qui... est-ce qu'ils enchaînent les gaffes de ce temps-là? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Ou est-ce que c'est du marketing viral?
Je ne sais pas. La question est posée. J'imagine que tu voulais commencer avec
le Chrome.
Ce qu'ils ont dévoilé accidentellement.
Oui, accidentellement.
Mais moi, je crois que oui, parce que... on va d'abord présenter le produit. Donc, c'est le Chromebook Pro. Quand même une belle bête, une espèce de... Bon, un Chromebook, mais qu'on peut replier sur lui-même. Donc, l'écran se pivote à 360 degrés. On a même le stylet, le fameux stylet de Samsung qui peut se loger directement dans le boîtier. Ça a l'air d'une belle bête. Le processeur serait un processeur ARM hexa-core, donc 6 cœurs à 2 GHz. 32 gigaoctets d'espace de stockage. Évidemment, c'est un ultra portable, donc c'est assez minimaliste de ce côté-là. 4 gigs de mémoire vive, le stylet dans la coque, je l'ai dit. 10 heures d'autonomie, un écran de 2400 par 1600 pixels. C'est franchement très joli. Donc, il y a les gens de Chrome Unboxed auraient croisé l'information sur les boutiques en ligne d'Adorama et B&H. C'est deux boutiques en ligne. L'information a été publiée et soudainement, c'est disparu. C'est affiché à 499$ et on parlait de 24 octobre comme date d'expédition. Est-ce que c'était des placeholders ou juste de l'information comme en attendant parce que la mise en page et l'information n'était pas finale? Ça, on ne sait toujours pas. Mais Samsung a aussi publié sur son site Internet toutes les images qu'on a pu voir et toute l'information sur ses produits. Mais après ça, ça a été mis hors ligne. Moi, si j'étais Samsung et je voulais détourner l'attention des consommateurs, ben je le laisserais en ligne si j'avais fait exprès ou même si c'était une gaffe. Pourquoi le retirer? Ça, je comprends moins. Fait que c'est pour ça que quand on m'avance, ah ben là, ils ont fait exprès. Ça a tellement été une, pardonnez-moi l'expression, mais une luck que le blog soit tombé là-dessus par hasard parce qu'il y a des utilisateurs qui magasinaient pour des Chromebooks et qui sont allés sur ces sites-là et qui ont vu « C'est quoi ce Chromebook Pro de Samsung? Ça n'existe pas. » Donc, je ne sais pas. Je trouve ça un peu louche. Mais effectivement, ça pourrait être une technique virale. Mais moi, si j'étais Samsung, je pense que j'aurais simplement mis en ligne. J'aurais laissé le site Internet. Puis parler de ça au lieu de parler de Galaxy
Exactement,
Note.
Exactement, parce que le Galaxy Note fait encore jaser aujourd'hui.
Ben oui.
C'est normal. Certaines compagnies d'aviation ont peur. Et avec raison.
Il a carrément été banni aux États-Unis. Ça, c'était déjà, nous, chez Branchez-vous, nous l'avions déjà prédit. C'est-à-dire, vendredi, il y avait déjà la rumeur comme quoi qu'aux États-Unis, ça allait être banni.
Ben oui.
Ça a été le cas. Et on a deviné que Transport Canada allait suivre parce que, évidemment, faut comprendre que les avions, ça voyage de pays en pays. Et il y a beaucoup des avions canadiens qui passent par les États-Unis avant de se rendre ailleurs. Donc, ça aurait été vraiment compliqué que Transport Canada ne bannisse pas le téléphone. Donc, les passagers sont pas au courant, mais le rendu aux États-Unis, ils se font dire qu'il est banni, puis ils sont sujets à des amendes.
Mais surtout, s'ils le cachent. Si tu le caches, c'est comme si tu avais une bombe.
En fait, c'est la même chose.
Non, pas vraiment.
Aux États-Unis, mais pas au Canada.
Au Canada,
si par inadvertance, tu avais un Galaxy Note 7 qui traînait dans ta poche, puis tu savais pas, puis qu'il y a un des... Un membre de l'équipage qui le voit, il va te demander de l'éteindre, de le garder sur toi, de t'assurer qu'il ne va pas se démarrer automatiquement et de surtout ne pas l'utiliser pendant le vol. Mais il n'y a pas question d'amende. Par contre, aux États-Unis, on considère ça exactement comme une bombe. Étant donné que, comme j'expliquais tantôt, lorsqu'on voyage aux États-Unis, nécessairement. Dès qu'on traverse la frontière, on est sujet aux lois du pays dans lequel on entre. Donc, même si c'est pas... Si on ne craint pas avoir une amende au Canada,
ouais,
si on voyage à l'intérieur du pays, ben dès qu'on passe par les États-Unis, là, c'est une autre paire de manches.
D'autre part, ils ont même des kiosques qui ont été installés pour faciliter peut-être les retours de téléphone.
Ben c'est exactement pour ça. Ouais. Ça, c'est assez intéressant. Ça a été observé d'abord en Corée du Sud par le Korea Times. Donc, Samsung a installé des kiosques d'échange. Il y en a eu en Australie. Il y a même sur le site de Samsung Australie, on a la liste des aéroports où les kiosques sont disponibles. Aux États-Unis, c'est plutôt des représentants qui, dans les aéroports américains, dans certains aéroports américains, notamment à San Francisco, il y a des représentants Samsung qui sont là juste devant, avant de passer la sécurité, qui sont là pour échanger les téléphones en direct. Donc, on peut donner son Galaxy Note 7 si par hasard on vivait sous une roche, on ne savait pas qu'il était dangereux et qu'il pouvait exploser et qu'il était interdit dans les avions. Donc, on peut le donner à ce monsieur-là. Il va nous l'échanger contre un Galaxy S7 ou un Galaxy S7 Edge. Évidemment, c'est une procédure un peu longue. On vérifie avec les systèmes, la facture, machin chouette. On peut également obtenir le remboursement. Donc, c'est essentiellement comme si on allait chez un détaillant, mais directement à l'aéroport. Samsung Canada n'a pas mentionné, j'ai pas eu de réponse, j'ai posé la question, si ça allait voir le jour au Canada, mais évidemment, Samsung a déjà lancé l'appel à tous. Donc, si vous possédez un Galaxy Note 7, vous vous rendez à l'endroit où vous l'avez acheté, où vous communiquez avec le détaillant en ligne qui vous l'a vendu, et vous procédez à cet échange, parce que le téléphone est dangereux. Puis de décider de le garder et justement de ne pas pouvoir voyager avec.
Ça sert à
quoi? Ça sert absolument à rien.
Une pièce de collection?
Ben c'est ça.
Pas de point,
oui, je suis d'accord, c'est dommage parce que c'était un beau téléphone. Mais le téléphone est dangereux, bordel! Il y a du monde qui ne comprend pas ça, puis je ne comprends pas.
Puis je ne comprends pas non plus qu'ils veulent le garder. Mais regarde, c'est comme ça la vie. Il y a des gens qui sont des ramasseurs.
On tombe amoureux de nos appareils, ça. Regarde, toi puis moi, ça nous est tous arrivé. On fera pas semblant. Donc, je peux comprendre à la limite, mais quand ça devient dangereux...
Replace l'appareil un peu. Je vais montrer le téléphone que tu as amené. Replace-le vers le truc. Lève-le un peu à côté de ton verre. Ouais, comme ça, c'est magnifique. Tantôt, on va vous parler de ce fameux téléphone, mesdames et messieurs, qui est le Pixel XL. Il est beau,
Pixel XL!
Vas-tu chanter quelque chose? C'est un peu d'effet, voilà.
Pixel XL! Wow!
OK. Donc, Ubisoft a annoncé son fameux jeu, finalement, la date de sortie.
Eagle Flight.
Ouais. Hey, on ne s'est pas parlé de VR. On ne s'est pas parlé de réalité virtuelle.
Mais est-ce que tu en as parlé avec nos amis?
Non, mais j'ai le casque ici devant moi. Je vais faire un test. Je dois faire ça jeudi. Ce soir, Battlefield 1. Avec les boys du Talbot Nation, parce que je fais partie des gens qui l'ont précommandé.
D'accord.
Version de luxe avec tout le kit, parce que je l'aime, ce jeu-là.
Précommande pas des jeux.
Pourquoi?
Parce que c'est dangereux d'un coup que le jeu n'est pas bon.
Non, ben j'ai fait le playtest, puis j'ai trouvé ça le fun, puis mes contacts en interne m'ont dit qu'il était bon. Alors, j'ai quelques amis qui travaillent encore dans ce merveilleux monde à qui je fais confiance, qui m'ont dit non, tu te trompes pas.
Ils sont jamais trompés.
Ah non, c'est pas si pire.
OK.
So far, so good, comme ils disent.
So far, so good, mais PlayStation VR.
Ouais.
Donc, t'en as pas vraiment parlé.
Non, il m'est arrivé un incident. J'étais assis où tu es présentement ce soir, près de l'armoire.
Donc, on imagine Denis ici. Là.
Attends un peu, je vais faire un boom. Oui, je suis comme ça. Et là, je suis en train de jouer au jeu de ballon qui se joue avec
Headmaster.
Headmaster, super bon jeu. Et c'est des mouvements de tête.
Je vais montrer comment on est supposé d'y jouer. Faut pas se déplacer le coup.
Non.
Là. Faut faire comme...
Exactement. À gauche.
Non,
à droite. Et là, j'étais tellement dans le game que j'ai swingé à gauche avec les lunettes d'en face. Bang! Et je me suis pété à la tête sur le mur avec les lunettes. C'était très drôle. Sauf que je peux dire une chose, ces lunettes-là sont solides en Simonac.
C'est ça, ça a plus fait mal à ta face
qu'aux lunettes. Oui, et parlant de lunettes, est-ce que tu joues avec tes goggles ou sans goggles?
Oui, il faut garder les lunettes. D'ailleurs, peut-être. Moi, je suis myope. Je sais que si j'enlève mes lunettes,
tu vois pas bien.
Je vois flou.
OK.
Alors que l'image est collée sur mon œil. C'est ce que je trouve complètement absurde, mais faut croire qu'il y a quelque chose qui fait en sorte que mon œil, il n'aime pas ça, puis il a besoin de ses
lunettes. Pour ma vision, je peux enlever mes lunettes et c'est fantastique. Fait chaud, par exemple, à la longue, quand ça fait 2 heures que tu joues, c'est sûr que tu as la pupille humide.
C'est sûr qu'effectivement, il y a quand même. Parce que c'est toujours le défi. Hein. On veut bloquer la lumière, mais laisser entrer l'oxygène. Mais là, c'est dur d'avoir quelque chose d'opaque qui cache complètement. Je trouve qu'ils font quand même une bonne job avec l'espèce de
visière,
le contour en caoutchouc.
Ouais.
Mais évidemment que l'humidité, surtout l'été, ou quelqu'un qui transpire beaucoup, C'est sûr que ça peut s'accumuler.
Mais la plupart des jeux sont intéressants. On a pu en savoir davantage sur London Heist. J'ai aimé la salle de tir pour se détendre, s'amuser.
Ouais, ouais,
et
non,
j'étais
cool,
content.
Là.
J'étais content parce que je me suis dit, je vais pouvoir enfin me servir de ces pistolets en plastique que je me suis procuré. Alors, j'ai inséré ça dedans, mon Laurent, et je me suis mis à jouer tard. Et là, je me suis rendu compte que mon gun était comme ça.
Ouais, c'est ça, il visait trop par en haut.
Le truc, le gyroscope dedans est calibré pour jouer comme ça. Alors, je me suis mis à tirer comme ça. Pas très
efficace. Parce que normalement, c'est ça, quand on tient le manche, on le tient un peu en diagonale. Donc, c'est comme si le manche de ton fusil est en diagonale. Mais là, le problème avec ça, c'est que le bâtonnet est complètement positionné horizontalement.
Alors
donc, ça marche pas.
Qu'il soit comme
dans
ça.
Ce contexte-là, ça marche pas. Donc, ils n'ont pas pensé, ces périphériques-là n'ont pas été tenus.
Ceux-là, non, mais les prochains qui vont nous vendre vont sûrement faire le job. Parce que quand on va jouer à l'autre jeu, c'est la planète dont j'oublie le nom, là, il va y avoir une espèce de carabine en plastique.
Mais honnêtement, on n'a pas vraiment besoin de...
Je comprends.
Un contexte de carabine où les deux manches doivent être fixes sur quelque chose, je peux comprendre. Mais un gun dans chaque main, c'est bien correct. Là, on peut avoir juste les manches qui viennent avec. Puis le sentiment immersif est là de toute façon.
C'est deux de même. C'est pour ça. Je me suis dit, on va avoir du fun. Mais non, ça marche pas. Mais pour venir à Eagle Flight, un jeu qui semblait pas mal intéressant quand on l'a vu du côté du E3, qui fonctionne bien sûr avec VR, mais également avec HTC Vive et
Oculus
Rift. Il va sortir le 8 novembre sur PlayStation VR. Il va sortir également le 20 décembre sur HTC Vive. Donc, c'est Funhouse qui a fait ça. C'est fait donc à Montréal, un jeu qui permet d'incarner un aigle qui vole au-dessus d'un Paris et ses quartiers iconiques il y a 50 ans après la disparition de ses habitants. Donc, on a recité des cartes. C'est une bonne affaire.
on a l'impression que c'est le cas. En tout cas, c'est plus coloré, mais quand même, c'est intéressant. Par exemple, si on modélisait Paris au complet pour... c'était lequel Assassin's Creed?
C'était
le dernier?
Je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier. En tout cas, ils ont
donc,
déjà...
Donc, si ont déjà les modèles de ça, t'appliques une autre texture, tu rends ça plus illuminé. Pourquoi pas, man?
Donc, la nature et la vie sauvage ont repris leurs droits, créant un terrain de jeu riche et offrant des sensations incroyables de vol libre. Le jeu propose également une expérience solo où les joueurs peuvent voler librement et améliorer leur technique, nous dit-on dans ce communiqué, mais aussi un mode multijoueur permettant aux joueurs de faire une équipe de 3 contre 3 dans des combats aériens intenses. Donc, intéressant. Eagle Flight a été fait spécialement pour la réalité virtuelle, nous dit-on, avec des contrôles qui sont très précis et dans lesquels on peut faire des cascades incroyables. Il faut aller attraper une espèce de lièvre, je pense, qui est décédé d'une carcasse et la promener de nid en nid sans se faire attraper par l'autre équipe. Ça semble bien, bien le fun. On attend qu'Ubisoft nous en envoie une copie et on va sûrement en parler davantage. Tu revois la bande-annonce, non?
Ça va aller. Surtout que je vais à Paris la semaine prochaine.
Ah, t'es tellement content.
Fait que la Tour Eiffel, je vais l'avoir en vrai.
Ouais, ouais. Puis
tu vas pouvoir chanter chacun sa route, chacun son chemin. Puis
chacun être bien son chemin.
Non, c'est un Indien dans la ville, là, le film français avec Thierry Lhermitte.
Hey, on va parler de ce téléphone-là dans quelques instants. Oui. Le Pixel XL. Mais auparavant, mesdames, messieurs, il est là pour nous parler de Razer, qui a fait une acquisition quand même intéressante. Moi, j'aime beaucoup le THX.
C'est
Razer,
très étrange.
C'est
même
bizarre. Peut-être pour les haut-parleurs, les cases d'écoute, c'est ce truc-là. Parce qu'ils avaient sorti, il n'y a pas si longtemps, une espèce de simulateur de THX pour les gamers.
Oui, THX, il y avait les jeux. Les jeux peuvent être accrédités par THX. Mais donc, l'entreprise THX, fondée par George Lucas en 1983, là, le logo qui apparaît au début du film qui fait... Ça a été acheté par Razer, le fabricant informatique. Ah là, j'ai tué un peu la magie de l'écho. Désolé.
Tac, regarde, il l'a acheté, tu veux?
Ben oui! Donc, Razer a fait l'acquisition de THX. On ne sait pas pour combien.
Après.
On ne sait pas pour combien, évidemment. Ça reste confidentiel. Mais Ming Liang Tan, le PDG cofondateur de Razer, il est ben, il est ben content. Il est vraiment content. J'ai l'impression que pour lui, il se dit « Wow, man, j'ai acheté THX, c'est tellement comme un jalon de l'expertise audio en cinéma. » Il trippe. Puis là, justement, ils veulent utiliser l'expertise de THX. Donc, les scientifiques, les ingénieurs de l'entreprise, tout le monde garde son emploi. Il n'y a pas de mise à pied prévue. Ils veulent exploiter ces talents-là pour les utiliser dans un contexte de réalité virtuelle. Donc, pour offrir une expérience de réalité virtuelle encore plus immersive et plus fidèle à la réalité.
Oui, beaucoup plus spatio-temporel.
Ben c'est ça. Donc, ils veulent, ils espèrent pouvoir utiliser leur talent à cet effet. Également, on a parlé en diffusion vidéo. Donc, je ne sais pas si on pourrait avoir une fidélité accrue chez YouTube ou Twitch, par exemple. Pour,
mais tu sais que les films en réalité virtuelle s'en viennent également.
Ben oui, ben il y a la fameuse suite de Blade Runner.
Yep.
Blade Runner 2049, si je ne m'abuse, qui est justement réalisé par notre ami Denis Villeneuve.
Yep.
Ben, ça va être compatible Oculus. Ça, j'ai aucune idée. Aucune idée comment ça va se passer si vous filmez avec plusieurs caméras.
T'es-tu assis dans une chaise qui pivote?
C'est la 3D. C'est bizarre, mais du moins, ça a été annoncé à l'Oculus Connect 3 il y a 2 semaines, si je ne m'abuse.
Exactement.
Donc, ouais, des films en VR. THX qui va travailler en VR. Est-ce qu'on fait 1 plus 1 égal? Peut-être.
Mais si on revient, ouais, si on revient à la VR de tantôt, à la réalité virtuelle de tantôt.
Oui.
Trouves-tu que...
Mais même celle d'avant,
ouais,
même
mais...
celle de la semaine passée.
On est-tu là? Ou c'est les... Ça vaut-tu 545$?
Ça vaut 549$ de...
549,
ça vaut son prix.
Ouais.
Par contre, ça prend le jeu pour justifier un tel investissement. Moi, personnellement, il n'y a pas de jeu encore qui m'appelle.
Moi non plus.
On a adoré London Heist. On était bien content d'avoir PlayStation VR Worlds. Mais sais-tu que PlayStation VR Worlds, pour quelqu'un qui achète juste le casque, et qui n'a pas précommandé l'ensemble de lancement, ben, il faut qu'il paye. Puis c'est 49,99.
Il y en a des moins chers. Il y en a des moins chers.
Non, non. Mais le PlayStation VR World, okay,
oui.
Ce jeu-là, ouais, il est 49,99 pour 5 expériences. Puis ça ne vaut pas ça.
Ça fait cher de
ça
l'expérience.
Ça ne vaut pas ça. Je ne peux pas croire que Sony ne le fournit pas gratuitement. C'est essentiellement, ça vient juste justifier l'intérêt du casque puis démontrer le potentiel. Puis
il aurait dû le donner
piastres.
Avec.
Je ne comprends pas.
Il aurait dû le donner avec.
Tout à fait.
Mais. Les expériences qu'on nous propose tournent autour, bien sûr, de la hauteur, des mains dans l'écran beaucoup, du fait qu'il y a des bébites qui tournent autour de nous autres, que ce soit des requins, des sortes d'affaires.
Mais c'est bien variable.
Basique, c'est basique. Oui, la qualité du graphisme est très variable.
Ah oui, la qualité est variable, mais aussi le type d'expérience. Moi, j'ai toujours été un fan de Rez.
Oui.
Puis avec Rez Infinite,
ouais.
Au PlayStation Experience, quand il l'avait annoncé, j'ai capoté. Puis là, je l'ai essayé. Puis waouh! C'est un jeu idéal pour une personne qui n'est pas hyper, genre, yeah, réalité virtuelle. Une personne qui est un peu...
Sceptique
ou qui veut pas nécessairement embarquer en vision subjective, donc à la première personne, un shooter ou quelque chose comme ça, veut quelque chose d'un peu plus relax. Là, on est derrière notre personnage, puis on peut regarder notre environnement, puis les contrôles se font avec la tête, une manette, mais le curseur, au lieu de le déplacer avec le manche, on peut simplement déplacer sa tête. C'est hyper facile et intuitif. Moi, j'ai vraiment trippé.
Moi, j'ai aimé le jeu d'horreur. Comment il s'appelle?
Ouais, Poppy, Until Dawn.
Until Dawn.
Rush of
Blood.
Man,
je me suis fait faire un saut à un moment donné. Là. Je suis dans les, j'arrive vers la fin, puis il y a une bonne femme qui sort de nulle part.
Ouais. Ma blonde, c'est le meilleur public pour ça. Elle crie à rien, c'est malade. Sauf que le problème, moi, j'ai eu des problèmes de calibration avec Rush of Blood. Même affaire avec Batman, Arkham VR.
Ah, j'ai pas eu de problème, moi.
J'ai eu des sérieux problèmes. Arkham VR, Batman, c'est vraiment gosseux parce que tu pars le jeu. Puis elle veut que tu te positionnes sur le symbole de Batman qui est sur le plancher. Puis faut que tu recules un peu, mais là, si t'as pas assez de place ou quoi que ce soit, il y a pas moyen de changer ça. C'est le jeu qui décide où tu dois être. Puis c'est là que tu te mets, puis c'est rien d'autre.
Un avec lequel j'ai eu de la misère, c'est Job Simulator. J'étais en dessous du plancher.
Ouais, ça pour la hauteur. Là, t'as-tu commencé assis ou t'as commencé debout?
J'ai commencé assis, j'ai essayé debout après, j'ai essayé les deux, puis c'était comme, je suis pas capable de le ramener, j'ai pas trouvé comment faire.
Non, il peut être agaçant au début. Moi, souvent, parce qu'il y a bien les jeux, puis ça, j'ai trouvé ça intelligent, par exemple dans PlayStation Worlds, tu tiens option quelques secondes, puis ça te recentre.
Ça, c'est cool.
Je suis comme, c'est ça que ça prend, c'est juste ça que ça prend, j'ai pas besoin de calibrer 100 000 patentes. Fais juste prendre pour acquis qu'en ce moment... La position où c'est que je regarde, je veux que ça soit mon centre.
Ben,
change tout le reste. Mais c'est tout. Mais Batman, il te repart toute la machine au complet pour tout checker les patentes. J'ai trouvé ça vraiment complexe juste pour.
Lui, ça a fonctionné tout de suite. Moi,
juste pour passer à quelqu'un d'autre, par exemple, en plein milieu d'une partie. Ah là, non.
La fois qu'il calibre selon la grandeur.
Parce qu'il faut dire que le casque est super confortable puis il est facile à enlever, à retirer. Une fois qu'on comprend, le mécanisme est un peu étrange au début, mais une fois qu'on a pogné à twist, ça va très bien. Puis là, justement, ça invite à le prêter à quelqu'un d'autre, puis à quelqu'un d'autre, puis essayer des trucs de même. Puis s'il faut recalibrer, puis ça soit super compliqué entre chaque personne, parce que tu mesures 6 pieds, moi je mesure genre 5 pieds 6, ça gosse.
Mais on va raffiner ça. Encore une fois, c'est une première version, c'est un premier truc. Mais dans l'ensemble, c'est probablement le casque qui va faire connaître davantage le VR,
qui va
démocratiser
abordable.
Tout ça. Ben exactement. Quand, tu ne payes pas 4000 là, pour un casque.
C'est surtout que la qualité graphique est quand même impressionnante. Évidemment, c'est pas du HTC Vive.
Non.
Mais ça se défend très bien.
Ouais.
Surtout, c'est du triple A de PlayStation 4. Là. Je veux dire, il n'y a pas vraiment moins de polygones quand tu regardes. Les textures sont là. Mm. Tu as la définition, l'espèce de grain de sable dans les yeux devant toi. Là. On ne voit pas les pixels vraiment tant qu'on est en mouvement. C'est vraiment juste quand on fixe qu'on peut voir, apercevoir des pixels.
Tu essaies de baisser la luminosité.
Oui, on peut jouer avec ça. C'était pas évident, je ne savais pas dès le début, je l'ai appris en faisant la critique.
Parce que je me suis posé la question. Si tu ne le fais pas, c'est que tu vas voir beaucoup plus de petits pixels. Donc, si tu joues avec ta luminosité, ça diminue cet effet-là et tu as l'impression de l'avoir. Moi, ils sont encore présents, mais moins visibles.
Ben, c'est ça. Le truc, c'est d'aller dans les menus. Donc, on tient le bouton PlayStation, puis il y a les paramètres pour ça. Mais moi, je me serais attendu à un bouton directement sur le casque, mais effectivement, le menu, ça. Ça règle bien des effets.
Un peu fragile, le casque également. Faut pas l'échapper par terre.
Mais tu t'es cogné et tu t'as dit qu'il était solide.
Oui, mais c'est le devant, oui, mais j'ai l'impression que l'élastique à la longue là, risque.
Ah, je sais pas.
Je sais pas, on va voir. J'aurais aimé ça qu'il y ait plus de ports pour charger nos fameux. Parce que quand tu charges.
On a juste deux ports sur la PlayStation 4. Ça. Je sais pas si la Slim, ils ont rajouté des ports USB. Je pense que non.
Mais moi, j'avais ici.
Effectivement, que c'est souffrant. Même. Le processeur séparé aurait pu avoir d'autres ports USB juste pour nous aider un peu.
Je me suis acheté, j'avais déjà ça ici. En fait, c'est un truc de port USB qu'on branche, là, qui est un multiplicateur de ports et ça fait la job. Alors voilà. Mais on va y jouer davantage. J'allais voir ce que ça donne. Ce qui est cool, c'est que les spectateurs peuvent également vivre l'expérience que vous vivez sans l'effet 3D, bien sûr. Mais on peut rire de vous. Parce que c'est le fun de voir ce qui se passe, mais quand tu le vois pas, tu vois les gens qui sont là.
Non, ça c'est un peu plate, mais c'est ça. Non, c'est vraiment c'est un peu plus social comme outil, comme patente. Moi, je trouve qu'il y a un beau potentiel. Ça prend le jeu. Puis moi, j'ai pas encore mon jeu.
Moi non plus, je l'ai pas.
Je pense que quand Resident Evil va sortir le 28 janvier, je vais avoir mon jeu. Mais en attendant, j'ai pas mon jeu.
On peut-tu jouer à Lara Croft? Il me semble que j'ai vu ça demander qu'on pouvait jouer à Lara Croft en VR, en équipe de deux, en co-op.
Hein, j'ai pas vu ça.
T'as pas vu ça passer?
Non.
C'est peut-être des affaires que j'ai appris parce que je suis...
T'es peut-être en train de pogner NDA puis le sacrer par la fenêtre.
Mais j'ai rien. J'ai rêvé ça.
Aïdos Montréal, salut.
Arrête-toi, là.
Ben là, je sais pas.
Ah, j'ai rêvé. Ah, okay. Mais c'est dans mon wishlist. On peut-tu dire ça?
On pourrait dire ça.
OK, c'est bon.
Fait que là, donc, tu vas couper la vidéo avant de la mettre en ligne. Ici,
non.
Ah oui, donc le casque. Je te donne une chance.
T'es fin, merci beaucoup. À part ça, donc, parlons de ton fameux téléphone que tu as amené. Tu n'as pas résisté, tu es allé.
Ben non, j'ai pas résisté, il n'est pas encore sorti.
Je sais, mais tu avais hâte, tu m'en avais parlé. Tu dis, c'est un beau téléphone, il est solide, il est complet. Alors, tu veux le voir là? Ah, il est solide, gars, ça n'a pas montré la solidité.
C'est vraiment la première chose. Dès que je l'ai eu en main la première fois, j'ai dit, wow, man, pour de vrai, hein, solide. Il n'est pas fait cheap. C'est un téléphone haut de gamme.
Es-tu résistant à l'eau?
Non!
Bon,
ça
comment
gosse.
Ça? Comment ça?
Oh, mon frère me parle tout le temps. Mon frère, non! il n'est pas résistant à l'eau. Il y a une résistance IP65.
64,
je
pense. IP 64, 65. En tout cas, IP quelque chose.
IP. Attends, j'ai trop d'iPhone. iPhone. J'ai vraiment parlé beaucoup d'iPhone dans mon... test IP53.
53, donc il n'est pas 64.
Oui, 53.
Okay, donc, il peut avoir un petit peu d'eau de l'eau.
Il résiste à la poussière, mais il n'est pas, complètement hermétique à la poussière.
Okay.
Il résiste aux éclaboussures d'eau. Mais il ne va pas toffer à l'intérieur d'un mètre pendant une durée déterminée.
Là, on voit ta bouteille. Là. Moi, je te mets ça là.
Excusez, je m'aime trop.
Tu t'en bats.
Check ça, le téléphone. Moi, ce que j'adore, c'est le lecteur d'empreintes digitales en arrière parce que c'est la première fois. Évidemment, ce n'est pas le premier téléphone que ça. Les Nexus, avant de l'avait, il y a eu d'autres téléphones.
Ouais.
Mais juste de mettre genre, son doigt derrière, c'est tout simple.
C'est déjà
un mouvement qu'on fait genre naturellement quand on n'est pas... distorsionné comme moi en ce moment, mais c'est super rapide.
T'aimes ça?
Oui.
Le processeur qu'il y a dedans, c'est quand même un processeur haut de gamme.
Snapdragon 820, donc c'est un très bon processeur. On soupçonne, en fait, Qualcomm, comment qu'il l'a présenté, a dit que c'est une évolution du 820. Le 820, par exemple, c'est celui qu'on retrouve dans le Galaxy S7 qui est vendu à l'étranger.
OK.
Non, aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est du Snapdragon, mais nous, au Canada, on a l'Exynos. En termes de performance, c'est à peu près équivalent.
Okay.
Donc là, on a le 821 qui, est supposé, qui peut se rendre à 2.4 GHz, mais Google l'a quand même baissé à 2.2 GHz. On suppose que c'est pour améliorer l'autonomie, peut-être éviter un peu la surchauffe. Moi, j'ai pas été témoin de la moindre surchauffe, sauf qu'il y a des gens qui racontent qui ont eu des problèmes à ce niveau-là. Donc, faudrait voir. Moi, j'ai fait une utilisation quand même assez intensive, là, mais pas exagérée. Je n'ai pas commencé à faire du montage ou okay. des jeux en 3D dans le tapis comme un fou.
Parlons de la charge. Est-ce qu'il garde sa charge longtemps? Est-ce que tu as eu la chance?
L'autonomie wow. est excellente.
Ouais.
Moi, je l'utilise quand même. Je l'ai quand même beaucoup, beaucoup sollicité ce week-end. Pris énormément de photos avec ça. J'ai filmé en masse. Puis on survit facilement une journée.
Ah ouais.
Si c'est pas plus. Puis en plus, si on le branche, eux, ils vantaient qu'en 15 minutes, on peut obtenir 7 heures d'autonomie.
Est-ce que tu as essayé?
Je l'ai essayé. Ça me donne 20% de plus sur ma batterie. Donc j'imagine que leurs 7 heures d'autonomie, c'est quand tu actives l'économie d'énergie.
Ah ouais,
parce qu'effectivement. Quand on active l'économie d'énergie à 100%, tout de suite en partant, là, l'expérience est fluide quand même, les performances sont là, ça va bien.
Il n'y a pas de perte
puis
de performance,
peut,
tu le sens pas.
Ben, il y en a une, certes,
mais on
la vit pas. Okay. C'est pas dans le fond, le téléphone va peut-être moins regarder en arrière-plan pour chercher des données ou des courriels ou des trucs comme ça. Mais honnêtement, moi, je le ressens pas en tant qu'utilisateur. C'est la même chose avec l'iPhone. Puis la batterie, là-dessus, une fois qu'on active l'économie d'énergie, on se rend 2 jours, parfois même 3, il n'y a aucun problème.
Puis le stockage en ligne, est-ce que ça ralentit l'appareil? Est-ce que tu le sens ou ça se fait
totalement transparent.
Ouais.
Faut dire que, justement, c'est une des particularités du Pixel, c'est qu'il peut stocker illimité toutes tes photos, toutes tes vidéos en pleine définition. J'ai vérifié, effectivement, c'est en pleine définition. Il n'y a pas de compression. Même que les fichiers JPEG du Pixel, lorsqu'on les compare avec l'équivalent sur iPhone, sont moins compressés. Donc, on peut avoir des images identiques là, qui vont peser peut-être 5-6 mégaoctets du côté Pixel, tandis que sur Apple, ça va être 2 mégs, puis on a vraiment aplati sévèrement l'image. Donc, ça, c'est assez intéressant. La qualité est là, puis ça se fait de manière transparente uniquement sur le Wi-Fi. Donc, on ne perd jamais d'espace. Faut dire qu'il y a deux modèles. Il y a un modèle à 32 gigaoctets et à 128 gigaoctets. Il n'y a pas de lecteur micro SD. Google veut vraiment inciter les utilisateurs à transporter leurs données dans le nuage.
Ouais.
Donc, il faut être à l'aise avec ça. C'est évident que si on se dit « Ah, le Pixel est un beau téléphone, il me plaît, mais je vais fermer tout ce qui est Google,
ben
car ma vie privée, j'y tiens. Ce téléphone ne sert à rien. Je veux dire, c'est un téléphone comme un autre. » Les bénéfices, c'est surtout le fait que tu as le stockage illimité, tu as le Google Assistant qui s'en vient en français, la nouvelle génération, donc on va pouvoir mieux interagir avec elle. Puis ça a beaucoup de potentiel, seulement que pour l'instant, on a l'ancienne génération qui est assez basic. Si on parle anglais, par contre, on peut avoir, par exemple, demander à l'assistant « San Francisco, est-ce que telle semaine de juillet, il y a des spectacles? » Oui, OK, à tel théâtre, est-ce qu'il y a des restaurants à proximité? Est-ce que tu peux me réserver une table à ce restaurant-là?
Mm-hmm.
OK, à telle heure. Tu peux avoir une conversation avec l'assistant, un peu comme les assistants qu'on a pu voir sur Facebook Messenger et d'autres services du genre. Ça va utiliser, par exemple, OpenTable. Ça va utiliser des applications qui sont déjà installées. Donc, c'est le Google Assistant qui est omniprésent. Mais pour ça, c'est sûr qu'il faut ouvrir la porte à Google.
Mais
puis si notre intérêt n'est pas là, il
n'y
a pas énormément d'intérêt.
Eric Lac qui dit « Ouais, c'est bien le fun, mais avec nos forfaits, nous et 6 gigs, on va les défoncer souvent. » Est-ce que tu penses que ça va te défoncer pour ceux qui ont…
Tu parles pour le stockage
ouais,
limité,
ouais.
Mais ça se fait juste sur le Wi-Fi.
Donc, vois-tu, c'est ça. Si tu le fais chez vous, il n'y a aucun problème.
C'est ça. Dès que tu vas… Étant donné que ça se fait de façon transparente,
ouais.
C'est vraiment… Android Nougat va attendre le moment où tu es connecté à un réseau Wi-Fi pouvoir transférer ces fichiers-là. Puis, mais même, je sais même pas comment les transférer manuellement. Moi, en utilisant les photos de l'appareil, j'attendais que ça se synchronise automatiquement avec Google Photos. Puis c'est sûr que ça passe par le Wi-Fi parce que Google est totalement conscient que
ouais.
C'est pas tout le monde qui a des gros forfaits illimités.
Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte lorsqu'on l'achète? C'est ça qu'on veut savoir.
Ça, c'est vraiment cool. On a. Est-ce que j'ai amené le câble avec moi?
T'as un Pixel, bon, bien sûr.
Je sais pas si j'ai mon câble, mais on a le Pixel, on a un câble USB-C à USB-C,
ouais.
On a un câble USB-C à USB-A et on a un adaptateur USB-A femelle. À USB-C. Ça, cet adaptateur-là va nous permettre de prendre un câble, par exemple, le câble Lightning du iPhone,
ouais.
De le connecter directement dans le Pixel et de transférer les données vers le Pixel. Et en fait, Android Nougat ou l'application du Pixel reconnaît les applications et les données, c'est comment Apple fonctionne, c'est comment Apple partage, divise ses patentes, là. Donc, il va pouvoir importer toute cette information-là, les contacts, et les intégrer dans le nouveau téléphone. C'est sûr que pour Android, c'est encore plus efficace parce qu'il peut carrément copier les logiciels directement. Ouais. Mais chez Apple, apparemment, il est capable de tout comprendre ça. Je ne sais pas s'il va jusqu'à comprendre les applications et t'inviter à télécharger leur version Android.
Probablement.
Ça pourrait être bien, mais ça, je ne l'ai pas testé.
D'autre part, pour ceux qui disent qu'il est trop cher, que réponds-tu à ça, cher ami? Tu as déjà fait une réponse il y a quelques émissions de ça. Mais...
C'est un produit haut de gamme. T'sais. Oui, la caméra, puis ça, c'est assez... étrange. La caméra principale, c'est essentiellement la même que sur le Nexus 6P et 5X. Il y a un chiffre de différence avec le capteur Sony qui est à l'intérieur, mais Sony ne dévoile pas vraiment les secrets derrière son capteur. Le capteur est de 12,3 mégapixels, la même ouverture, la même grosseur de pixels, c'est du 1,55 Yum, l'espèce de U bizarre. Bon, ouais. Donc, c'est un pixel un peu plus grand. Les couleurs sont intéressantes. Moi, je les trouve moins fidèles qu'un iPhone.
Ah oui?
Par contre, en termes de contraste et de qualité d'image, de finesse, de détail, cette caméra-là torche.
Est-ce que
je vais dire ça poliment, mais on soupçonne que c'est l'application caméra qui a été grandement améliorée. On a une stabilisation également lorsqu'on filme, par exemple, qui n'est pas l'équivalent d'une stabilisation optique. Mais qui se défend drôlement bien. Mais c'est ça, on se demande si ces bénéfices-là, on ne va pas les retrouver sur le Nexus 5X, si jamais une fois que Nougat va arriver avec la nouvelle version de l'application caméra, si on ne se disait pas.
Il y a Soyoung qui dit que c'est surtout cher, dans le sens que Google ne supporte jamais très longtemps ses téléphones pour des mises à jour majeures. Qu'en penses-tu?
C'est dur à dire. Il y a plein de gens. Cette critique-là est revenue souvent. C'est parce que ce qui est arrivé avec Nexus, c'était un peu expérimental comme programme.
Ouais.
Google s'amusait à passer d'un fabricant à l'autre. On essaye, on change, on s'amuse. Tout le monde est égal, tout le monde est beau, tout le monde est gentil.
Kumbaya.
Fait que c'était vraiment bizarre parce que Google était seulement responsable d'Android et le produit final était conçu par le fabricant en question. Là, ici, c'est une autre gamme totalement. Ça s'appelle Pixel, c'est pas le Nexus. Le concept du téléphone, qui a décidé de le faire de cette forme-là, que ça allait être comme ça, que toutes les composantes allaient être placées de cette façon-là, ça, c'est Google. Ça, c'est la première fois que Google... C'est pour ça qu'ils parlent de « made by Google
».
C'est la première fois que Google conçoit le téléphone de A à Z. C'est HTC qui le fabrique. Mais HTC a seulement eu le mandat. Là. Essentiellement, ils utilisent leur expertise pour reproduire ça. Mais ça, c'est la vision de Google. Donc, étant positionné comme ça, Google s'apparente un peu plus à Apple, peut jouer un peu plus dans sa cour. Apple a souvent tendance à se vanter, dire « Oui, nous, on est les maîtres du logiciel, du système d'exploitation, puis on est les maîtres du matériel. » Ben dans ce cas-ci, Google est exactement dans la même position qu'Apple. Donc, va savoir à quel point, pour l'instant, le produit est très, très intéressant. Je trouve qu'en termes de prix, on aurait pu faire mieux. En termes de, par exemple, la résistance à l'eau, ça gosse.
Ouais.
Il n'y a pas de stabilisation optique. On aurait peut-être aimé ça qu'il y en ait une. Il n'y a pas de lecteur micro SD. Bon, c'est pas la fin du monde, mais on dirait qu'il manque juste un plus. Parce que la caméra frontale est très impressionnante également. 8 mégapixels. Moi, je trouve que ça fait des selfies extraordinaires. J'ai plus besoin. Parce qu'auparavant, on a tous déjà fait ça. On tient le téléphone à l'envers parce qu'on se dit, mais cette photo-là va tellement être plus belle. Ben là, tu peux prendre. C'est sûr que c'est pas du 12,3 mégapixels, c'est un peu moins. Mais à 8 mégapixels, quand l'iPhone est à 7, puis le Galaxy S7 est à 5, on a quelque chose de drôlement bien. Donc, moi, il m'a impressionné par ces caméras, mais là, je suis curieux de voir pour la caméra principale si on va pas retrouver les mêmes bénéfices du côté Nexus. Mais la caméra frontale, on est déjà mieux. Là. Je pense que le Nexus 5X avait 5 mégapixels, mais peut-être même moins.
C'est là-dessus.
Donc, c'est vraiment une belle machine.
L'honneur de la guerre pour les téléphones, ça va être la caméra et bien sûr les processeurs à l'intérieur. Tout ça. Et le reste, c'est du gravy autour. Mais le fait d'avoir du stockage gratuit, ça va en charmer plusieurs.
Ben, c'est sûr.
D'autre part, il y a Miguel Boulet qui veut savoir. Salut, question pour Laurent. Est-ce que c'est ton téléphone principal?
Je suis comme... Parce que là, j'ai cette espèce de bibitte qu'on appelle iPhone 7 Plus.
Ouais,
avec le double objectif. C'est super efficace. J'ai d'ailleurs fait des comparaisons. Si vous allez sur Branchez-vous, vous allez pouvoir voir comment les caméras gèrent. En termes de couleurs, comme je disais, je trouve que iPhone fait le meilleur job. C'est plus fidèle à la réalité.
Ouais.
Par contre, on a plus de marge de manœuvre avec le résultat du pixel
à
mes yeux.
C'est
mais physiquement, c'est
un peu. Wow. Ouais. Ouais. Ben,
je vais faire ça.
Ouais. Tasser un petit peu.
Voyons. Calme.
Ah, et voilà.
Bon, on tasse ça un peu. Donc, ici, on a l'iPhone 7. Ici, on a le pixel. Le pixel est un petit peu moins haut. Et le pixel est à peine moins large.
En question,
mais sinon, c'est sûr que ça y ressemble. Le rayon là, des coins arrondis est identique. On aurait pu se forcer pour essayer de faire un peu différent. Le dos est vraiment... Moi, je trouve que le dos est vraiment intéressant avec l'espèce de côté en verre qui permet qui invite au doigt. Donc, ouais. On a tendance à le débarrer plus facilement parce que la texture est le fun, fait qu'on veut le faire. Puis la posture aussi, la
prise en main.
La prise en main est meilleure. Parce que juste avoir l'espèce de côté satiné argenté, des fois ça glisse puis ça tombe à terre. Moi, ça m'agace bien gros.
Ouais.
Il est plus épais aussi qu'en iPhone. Mais la caméra dépasse pas. Man, c'est une belle bête. Je sais pas si c'est mon téléphone officiel parce que moi j'étais sur iPhone avant, puis là je commence ces deux appareils-là, puis je sais pas lequel choisir.
Le petit Dave qui un autre aussi ont posé la question. Ouais, mais qu'est-ce qui arrive avec ma musique? Est-ce que j'ai de la musique seulement lorsque je suis sur Wi-Fi? Ou si je me promène en centre-ville, en LTE, j'ai ma musique quand même. Qu'est-ce qui arrive avec la Muse?
Ben, ça dépend. Ça dépend du forfait, puis ça dépend de la façon qu'on l'a configuré. Là, quand je parlais de stockage illimité tantôt, c'est vraiment juste pour archiver
les photos
et les vidéos qui sont quand même des données très, très, très pesantes. Mais si on a Spotify et qu'on décide d'avoir de la musique en LTE, ou si on stocke notre musique directement sur le téléphone, bon, il y a accès tout le temps. Mais pour ça, il faut... Faut juste gérer les trucs autrement avec Google Play Musique.
Puis il y a des fournisseurs maintenant qui, comme Vidéotron, offrent de la musique à volonté avec certains forfaits. Ça ne coûte rien de plus. Donc,
oui, sauf que là, c'est intéressant que tu parles de Vidéotron parce que le Pixel est offert chez Rogers, Bell, TELUS.
Et pas chez Vidéotron.
C'est tout.
Ah ouais.
Il n'y a pas de Vidéotron. Ils n'ont pas réussi à négocier. On a posé des questions lors de la conférence. Puis ils ont dit, on magasine les partenariats selon nos blablabla.
Ouais,
fait
d'accord.
Que le téléphone va fonctionner sur le réseau de Vidéotron. C'est juste qu'on ne peut pas se rendre chez Vidéotron. Puis dire, ah, j'aimerais ça, genre, payer tant par mois puis l'avoir à moins cher. Vidéotron ne l'offrait pas, du moins jusqu'à tout récent, à moins que ça ait changé.
Il s'est débarré, ton téléphone?
Ben oui.
Et donc, quand tu vas aller à Paris, tu vas pouvoir profiter justement d'un service téléphonique français.
Et tout à fait.
Tu vas nous en parler. Tu vas nous dire comment ça fonctionne là-bas, comment ça a été. Tu vas pouvoir l'utiliser un peu plus.
Je pense que je fasse tous ces devoirs-là. Je pensais que j'allais là pour m'amuser.
Tu vas là pour t'amuser, mais quand tu reviendras, tu vas l'avoir utilisé davantage. Tu l'as eu quand, ton téléphone?
Ben, les journalistes, on l'a reçu quand même jeudi de la semaine dernière.
Okay. Fait
que j'ai passé le week-end avec. Là.
Ben, c'est ça. Tu vas jouer plus avec. Tu vas me jaser ça.
Ça, c'est si je l'amène.
Tu l'amèneras pas?
Ben, je sais pas. Hein, lequel je vais amener? J'amène-tu les deux?
Les deux.
Ça commence à être compliqué. Moi, si je me fais cambrioler par des Français fâchés, tu sais, je ne veux pas les perdre les deux.
Non, okay.
C'est bon.
Non, on verra bien. Donc, note sur 10, combien?
Si on se fie à branchez-vous, je pense que ça finissait par donner, je veux juste pas dire de bêtises. C'est ça, je le donnais 4 sur 5.
Okay.
Mais si je peux le remettre sur 10, j'irais à 8.5.
Ah,
parce que nos fractions sont en 0.5. Donc,
okay.
Je donnerais 8.5. On a vraiment beaucoup de potentiel. Il manque le petit oomph. T'sais, une personne qui se contrefiche de la caméra.
Ouais.
Mais contre-fiche de la caméra et qui ne veut pas utiliser, par exemple, Google Photos avec le stockage limité, il s'en fout, là.
Mais,
ben, ce téléphone-là devient drôlement moins intéressant. Là, on voit pas pourquoi tu t'investirais autant d'argent, aussi bien aller voir le Galaxy S7.
Ça se pourrait-tu que nos amis d'Apple disent « Hey, le stockage est limité, on va vous l'offrir nous autres aussi. »
Si Google réussit vraiment à jouer dans les plates bandes d'Apple, et je ne crois pas que ce téléphone-là peut le faire encore,
okay.
On est drôlement proche.
On n'est pas loin.
Mais je sais pas. On est sur la frontière. Parce que c'est un beau produit.
Ouais.
Faudrait juste qu'il soit juste une petite affaire moins chère.
Autre question pour terminer. Est-ce que j'attends pour le téléphone anniversaire de Apple qui va sortir l'année prochaine ou j'achète cette version aussi du 7 Plus, mettons?
Tu veux dire le
prochain iPhone qui va sortir? Parce que l'année prochaine, c'est un anniversaire pour Apple.
OK, ouais, ça va être le 10e anniversaire. Fait que tu penses qu'il va
sûrement avoir un téléphone.
Ben.
Est-ce que j'attends?
Tout le temps. Mmh. Parce que t'attends, je sais pas. Là, t'as besoin d'un téléphone. Il faut toujours se poser la question. L'appareil que vous avez en ce moment, est-ce qu'il répond à vos besoins? Puis essayez pas de. C'est sûr que c'est selon votre budget. Mais essayez pas de vous faire des histoires de. Ouais, c'est vrai qu'il est là. Moi, c'est vrai, je l'ai échappé, puis il y a une petite poque là. Essayez pas de vous trouver des excuses. Mais c'est sûr que si vous avez l'argent, de toute façon, vous vous posez même pas la question, vous allez l'acheter de toute façon. Mais si vous êtes serré dans vos moyens, dans votre budget, non, posez-vous vraiment la question, est-ce que j'ai vraiment un problème avec le téléphone? Si ça fait moins de 2 ans que vous l'avez, franchement, changez pas de téléphone.
Attendez.
Il devrait répondre encore à vos besoins, à moins que ce soit vraiment une daube.
Ouais.
Mais ça me surprend. Je sais pas, en tout cas. Si vous écoutez Monsieur Net, vous achetez des bons produits, là, vous avez de l'allure. Radio Net, Radio Talbot.
Ah, lapsus.
C'est ça qui arrive quand tu, manques une semaine de Radio Talbot. Tu déparles, tu dis n'importe quoi.
Exactement. Je peux savoir le prix, quoi, c'est 900 $?
899 à partir de 2.
À partir de 2, selon
donc,
les configurations.
Donc, ça monte assez vite. Je vais vous dire ça, parce que ça, c'est quand même le XL. Le XL, lui, commence à 1049.
Wow.
Mais si on le compare avec l'iPhone 7 Plus, il commence à 1049.
Pour plus de détails, allez faire un tour sur le Google Store. Tous les forfaits sont là, les
prix.
C'est
ça, mais c'est ça. On a, par exemple, si on le compare avec l'iPhone 7 Plus, qui a une double caméra, ben 1049, les deux produits se vendent exactement au même prix, mais lui, il est étanche, puis il y a une caméra double.
Exact.
C'est la même capacité de stockage. Donc, ça, oui, t'as le stockage limité. Oh, mais la caméra est pas. C'est dur, c'est vraiment dur à départager.
Merci, Laurent, de ces précisions. Et pour terminer le spectacle ce soir, on vient de revoir un communiqué en anglais de nos amis de chez Bethesda qui vont sortir le fameux jeu Prey. Et on se retrouve dans une espèce de réalité alternative là-dedans où le président Kennedy a survécu à sa tentative d'assassinat. Et là, ça donne naissance à toutes sortes de conflits. Et donc, il est en train de se remettre de son assassinat, de sa tentative d'assassinat. Kennedy, donc, se retrouve dans une espèce de course spatiale pour le premier qui va arriver dans une base, construire une espèce de base qui se trouve dans l'espace. Et bien sûr, les méchants, ça doit être les Russes, j'imagine. Et donc, dans cette base, on tente de faire des recherches sur une espèce d'intelligence extraterrestre, mesdames, messieurs. Et bien sûr, il va se passer des affaires. Oh, bande annonce. Regarde bien ça, toi.
The following memorandum is classified and falls under your TS-76C non-disclosure agreement. Any deviation from this will result in maximum prosecution.
Ah, sérieux, hein?
In 1958, the Soviet Union launched the Verona 1 satellite to secure their lead in the space race. The Verona entered stable orbit around Earth-Moon Lagrange Point 2 and began transmitting deep space telemetry back to Earth. But after communication ceased, a manned mission was sent to investigate. When the repair team found no external issues, Soviet leadership ordered the cosmonauts to breach the satellite. In the moments that followed, the cosmonauts encountered something unprecedented, a non-terrestrial life form. All members of the mission were lost. The footage was labeled a state secret and buried. After 2 years of silence, the Soviets contacted the U.S. and pleaded for help with containing the threat. Kennedy agreed. In 1963, the U.S.-Soviet collaboration resulted in the Kletka program, a permanent installation to contain the non-terrestrials. But the historic partnership was short-lived. Following a failed assassination attempt, an emboldened Kennedy returned to office and seized control of the joint program. And in the 2 decades that followed, the U.S. evolved the station into a fully functional R&D facility. American teams studied the non-terrestrials, now labeled Typhon, but were unable to harness their enigmatic abilities into military or commercial applications. After an unfortunate containment failure led to the death of an entire research team, the U.S. shuttered the project in 1998. The station was abandoned. The Transtar Corporation secured the derelict station and transformed it into Talos One, a cutting-edge innovation center. In just 5 short years, the team aboard Talos One has achieved a greater understanding of the Typhon organisms than 3 decades of government research. And soon, innovations from our psychotronics division will redefine what it means to be human.
Donc, un jeu qui
s'appelle... C'est pas juste la disparition de Kennedy, là. Non, non, non. Ça va plus loin que ça.
Ça va plus loin,
sûr. Parce qu'au début, je me suis dit, coudonc, qu'est-ce qui se passe avec Bethesda? Avec Wolfenstein,
ouais.
Il avait imaginé la suite de Wolfenstein dans un univers où
l'univers
Hitler
parallèle.
Aurait gagné, ouais. Et les nazis seraient au pouvoir.
Dystopie.
Là, on a Kennedy qui est pas mort, mais ça va ailleurs, pareil avec l'histoire d'extraterrestres, donc c'est intéressant.
Je trouve ça intéressant, ça va paraître, laissez voir, dans le communiqué que je viens de recevoir, on nous dit 2017 sur Xbox One, PlayStation 4 et sur PC. Et le jeu n'a pas encore été sa cote. Il n'y a pas eu sa cote ESRB, la mature ou grand public. Autre question qui nous vient de Facebook cette fois-là, je viens de voir passer ça, c'est M. Simoneau, Bermond Simoneau, qui nous demande, avant de partir, Gran Turismo Sport en réalité virtuelle, le premier jeu, ça vaut la peine, Denis Talbot?
Moi, j'ai pas... Je sais pas si Gran Turismo, ça se peut très bien qu'il soit en réalité virtuelle, ouais. Mais il ne faut pas mélanger le jeu de course sur lequel Sony travaille, non. Qui a été confirmé pour la réalité virtuelle, c'est Drive Club.
Exactement. On l'a essayé,
c'est
nous
sûr,
autres.
C'est
essayé,
sûr
toi,
que...
Drive Club?
Oui, non. Ouais. Puis c'est vraiment impressionnant parce que il n'y a rien comme la réalité virtuelle pour faire de véritables angles morts. Oui, par exemple, dans Gran Turismo, on a un miroir, puis on a quand même le
pareil.
Sentiment... Mais ça n'a rien à voir.
La plupart
là,
des
tu
gens...
vires la tête, puis tu vois exactement ce qui est en arrière de toi.
La plupart des gens que j'ai vu jouer à ça sont tellement habitués de jouer à des jeux qui sont normaux, entre guillemets, sans réalité virtuelle, qui conduisent comme ça. Mais là, à un moment donné, je donnais une petite claque, tourne la tête. Ah, il y a une auto là.
Ben oui,
ah,
non, il y a une auto là.
Le seul bémol que je trouve, c'est que sans forger et sans... sans sensation des impacts, lorsqu'il y a un impact, justement...
C'est un peu étrange.
Ça fait étrange.
C'est
et votre cerveau, votre cerveau va faire comme « wow ». Il va se crisper. Lorsqu'on va arriver, par exemple, une bordure de métal ou une autre voiture, il va se crisper. Puis il n'y a rien qui se passe. Et c'est là que l'étourdissement arrive. Et peut-être certains maux de cœur pour les gens qui sont plus sensibles au mal des transports.
Je me demande si il n'y aurait pas des bénéfices à ça.
Ouais.
Par exemple, si on joue énormément à Drive Club...
Ouais.
À un point tel où ce que notre cerveau enregistre que c'est une simulation et fait en sorte qu'on se crispe plus lorsqu'on est sur le point d'avoir un impact. Ben, lorsqu'on va avoir un véritable accident, parce qu'il faut savoir que c'est souvent ce qui cause des blessures. C'est pas oui, l'impact de l'accident est quand même en grande partie responsable, mais le simple fait de se crisper cause énormément de dommages et c'est pour ça que les personnes qui prennent un coup vont souvent survivre parce que eux, le cerveau n'a même pas le temps de réagir puis de crisper quoi que ce soit. Ils sont tellement endormis qu'ils vont passer à travers une vitre puis ils vont tomber comme du jello et survivre à leur coup. Donc, ça serait intéressant de savoir si la réalité virtuelle ne peut pas désensibiliser à la longue, je me demande.
Je ne sais pas, mais M. Simoneau vient de me réécrire encore une fois. Il dit « Gran Turismo Sport selon Game Rant, a été confirmé en VR. Donc, c'est Polyphony Digital qui annonce Gran Turismo Sport, a brand new Gran Turismo game that will feature FIA-sponsored competition and PlayStation VR support, selon Game Rant. Donc, intéressant. Si c'est le cas, je ne sais pas, je n'ai pas essayé, M. Simoneau.
Game Rant.
Ouais, je vais l'essayer. Il y a des bandes annonces qui ont été annoncées. Attends, puis une autre question qui revient à la charge. Là, je comprends pourquoi. Il s'est installé quand même un simulateur chez lui. Quand même, il est bien installé avec un cockpit virtuel. Tout ce qu'il vous manque, c'est les actuateurs pour faire bouger votre cockpit, M. Simoneau. Et vous allez être en voiture là-dessus. Et c'est le cas de le dire. Donc, intéressant. 900 watts, 9 haut-parleurs. Un maniaque, un vrai. Donc, avec le VR, ça va ajouter une coche de plus à votre expérience. Et ça va vous procurer des sensations jusqu'alors peut-être inexpérimentées. Alors, Bermond Simoneau, merci beaucoup d'avoir été là ce soir. Comme à vous tous et toutes, qu'est-ce que ça donne du côté des gens qui ont fait des dons ce soir? On a eu plusieurs, merci beaucoup. Il y a Grutier70 qui est redevenu membre pour un deuxième mois consécutif. Il y a Bruno qui est redevenu membre pour un 22e mois d'affilée. Et tous ceux et celles qui l'ont fait sur Facebook, devenez membre de radiotalbot.tv/. C'est twitch.tv/radiotalbot. Allez faire un tour, devenez membre, c'est important. Allez faire un tour sur radiotalbot.tv pour revoir nos émissions. Et moi, je tiens à te remercier encore une fois de ta présence, cher ami.
Ben, merci à toi. Je suis pas là la semaine prochaine.
Non, je sais. Bon voyage à Paris. J'espère que tu vas t'amuser. Ramène-moi quelque chose.
OK, je vais essayer. Ramener du pain.
Ça, j'ai
du fromage.
Ça. Ça, j'ai dit ça. Quand j'allais en voyage, j'ai dit quelqu'un. Ramène-moi de quoi?
Ouais.
Ouais, c'est ça.
Je vais essayer.
Bon voyage. Merci beaucoup à tous nos commanditaires qui nous donnent un fier coup de main comme ça, de semaine en semaine, de jour en jour. Et restez là aux alentours de 22h. On va faire un playtest de Battlefield 1. Je sais que c'est tard, mais...
Vaut mieux tard que jamais.
Comme dirait les Hells, vieux motard que jamais. Attention à vous autres, tout le monde. Bonne soirée. À la prochaine.
Votre conseiller.net. Du notaire aux assurances, évitez de vous y perdre. Nous vous accompagnerons dans votre processus d'acquisition avec un réseau de professionnels multidisciplinaires. Gagnez du temps et retrouvez tout sous un même toit. Votre conseiller.net. Une équipe jeune et dynamique, signée Yann Sénéchal.
Cet espace vide pourrait être le vôtre. Vous désirez faire connaître vos produits ou services? Pourquoi ne pas le louer? Nos tarifs sont très, très abordables. Contactez-nous. radiotalbot@gmail.com